Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans Parole protestante. C'est l'émission de l'Église protestante unie de Corse. C'est Christiane Giot qui vous parle et qui est ravie de vous retrouver tous et toutes pour, comme chaque semaine, nous balader, entre guillemets, dans les Écritures. Et là, c'est le livre d'Amos qui nous prend bien et dont notre pasteur Marie-Odile. Bonjour Marie-Odile.
Bonjour Christiane. Alors, nous continuons dans les grandes secousses,
oui.
Là. Hein.
Oui, ça commence dur, vous allez voir.
Oui. Non, ça régale, voilà. Oh, non, mais où va-t-on? C'est qu'on y prendrait goût.
Absolument.
Et donc, nous allons écouter dans le livre d'Amos, les versets, au chapitre 5, les versets 21 à 27, pour commencer.
Je déteste, je méprise vos pèlerinages. Je ne puis sentir vos rassemblements quand vous faites monter vers moi des holocaustes. Et dans vos offrandes, rien qui me plaise. Vos sacrifices de bêtes grasses, j'en détourne les yeux. Éloigne de moi le brouhaha de tes cantiques. Le jeu de tes harpes, je ne peux pas l'entendre. Mais que le droit jaillisse, comme les eaux, et la justice, comme un torrent intarissable. M'avez-vous présenté sacrifice et offrande au désert pendant 40 ans, maison d'Israël? Mais vous avez porté Sikoud, votre roi, et Kiyoun, vos images, l'étoile de vos dieux, que vous vous êtes fait. Je vous déporterai au-delà de Damas, dit le Seigneur, le Dieu de l'univers. C'est son nom.
Eh bien, là encore, très clairement, Dieu est en colère. Et ce qu'il y a de plus terrible, à mon sens, c'est que Dieu est en colère contre le culte même qui lui est rendu. Hein, donc quoi faire? Parce que effectivement, du verset 21 au verset 24, ce sont les cérémonies liturgiques qui sont visées, et comme il semblerait, hein, comme nous le rappelle la Tob, la traduction œcuménique biblique, que le culte d'Israël, enfin celui qu'Israël rend à Dieu, est enflé de telle manière que ça met Dieu en colère, d'autant que le peuple en fait sa fierté. C'est donc devenu un culte orgueilleux. Hein. On a déjà souvent dit ostentatoire, qui en rajoutait, etc. Et Dieu assène les possessifs, vôtres, vos thés, vos pèlerinages, vos rassemblements, vos offrandes, votre sacrifice, tes cantiques, et même le brouhaha de tes cantiques. Alors, j'ai bien qu'on ne chante pas toujours très très bien, mais quand même, c'est dur à entendre. Dieu ne se reconnaît pas dans ce culte si ostentatoire, si auto-centré. C'est comme si ceux qui célèbrent disaient « Regardez comme je célèbre bien !» quoi. Hein.
Voilà.
Dieu le récuse, il le refuse, même cela le dégoûte. Alors là, on en prend plein la tête. Hein. Voilà qui peut légitimement nous secouer. Et même nous, protestants réformés, réputés pour être austères, eh bien, nous n'imaginons pas célébrer sans un minimum de beauté, de décorum, quoi. Donc, à quel niveau faut-il aller pour ne pas en faire trop, quoi. Et donc, la question se pose, à quel moment la fierté légitime du culte bien rendu à Dieu? Parce que, très honnêtement, je ne crois pas que Dieu se satisfasse non plus d'un culte indigent, pauvre, l'a rendu à la va-vite. Donc, à quel moment cette fierté, donc toute légitime, est-elle remplacée par la fierté centrée sur nous-mêmes, qui, à ce moment-là, nous regardons célébrer avec une certaine suffisance et autosatisfaction, hein? Forcément, on est obligé d'être interpellé, hein, parce que personnellement, ça m'interroge. Je me dis quand même, Bon, même si, comme je le disais, c'est vrai que nous, on est quand même plutôt sobre dans nos célébrations, néanmoins. À quel moment on est juste en termes presque harmoniques aux yeux de Dieu dans notre manière de célébrer. On peut pas faire du n'importe quoi non plus en bas quoi, en rien, en moche, en voilà. Alors bon, ça reste et peut-être que ça doit rester une interpellation justement. Mais en fait, la réponse, on l'a très vite, hein, c'est au verset 24, et c'est Dieu qui nous la donne, que le droit jaillisse comme les eaux. Oui. C'est-à-dire que ni la splendeur des cérémonies, ni la piété ainsi étalée ne remplaceront jamais la justice sociale. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Alors peut-être qu'on pourrait imaginer qu'on puisse, je pense tout haut là, qu'on puisse avoir des cérémonies tout à fait magnifiques, etc., à la condition que la justice soit traitée à la même hauteur. Voilà, c'est une question de balance, quoi, entre les
oui,
deux.
Oui, oui, hein. On peut essayer.
On peut essayer. On pourrait même dire lire ici dans ce que Dieu dit que le lieu privilégié pour rencontrer Dieu n'est pas le culte mais la justice. Et donc à ce point-là, le prochain devient le chemin pour rencontrer Dieu. Ce que effectivement la venue du Christ et son enseignement nous confirmeront, le Dieu d'Israël se rencontre bel et bien de manière incarnée dans l'histoire des hommes. Et donc,
il me semble, Marie-Odile, pardon, que oui. Le nom, un des noms qu'on donne à Dieu dans la Bible, c'est Dieu de justice.
Eh oui, justement. Eh oui, et on l'oublie. On l'oublie. Oui. Mais ce passage, donc, parce que vous savez que les temps et les modes en hébreu ne sont pas la même. Enfin, ne correspondent pas exactement avec notre français. Donc, que le droit jaillisse, on pourrait aussi le traduire et le droit jaillira. Et si on le traduit de cette manière-là, on pourrait entendre l'annonce d'un salut qui jaillira lorsqu'Israël aura réformé son culte et donc sans doute, comme je le disais, mis en adéquation sa pratique de la justice, hein, cette histoire de balance dont nous parlions tout à l'heure. Comme toujours, on peut entendre l'un et l'autre. Hein, le subjonctif comme le futur sont liés. Oui. Et donc, on peut entendre dans l'hébreu, en tout cas, l'un et l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. C'est toujours cette richesse, hein, que nous rappelons souvent de la langue hébraïque. Au verset 25, il ne faut sans doute pas entendre qu'Israël n'avait pratiqué aucun sacrifice au temps du désert, hein, puisque bon, c'est même à ce moment-là qu'on a donné toutes les lois, donc bon, quand même. Mais cela se faisait certainement dans un dénuement qui plaisait plus à Dieu que la splendeur des cérémonies organisées à Bethel. Simplement par le fait que les nomades sont quand même nettement moins installés, hein, donc les choses se faisaient de manière plus, je dirais, plus naturelle, peut-être plus dans la vie. En fait, au désert, Israël ne pouvait compter que sur Dieu. Il savait pertinemment avoir moins à lui offrir qu'à recevoir de lui. Hein. Sa vie dépendait finalement de ce que Dieu lui offrait. Et donc, le peuple restait dans l'humilité, ou du moins, y était-il ramené de temps à autre, hein, dès qu'il manifestait trop d'orgueil et d'exigence. Hein, ça s'est souvent produit. Quant au verset 26, eh bien, il est un peu anachronique, hein, puisqu'un copiste a lu ici le nom de deux divinités assyriennes qui n'ont été importées dans le pays, en fait, que plus tard, avec la déportation dans le pays d'étrangers, hein, comme ça se faisait, hein, on l'a déjà plusieurs fois expliqué, donc des étrangers qui venaient d'ailleurs avec leur dieu, bien évidemment, et qui ont été installés dans le royaume du Nord. Alors on peut pour ça aller voir dans le deuxième livre des rois, au chapitre 17, les versets 29 à 31.
En fait, chaque nation se fit son dieu et le plaça dans les maisons des hauts lieux que les Samaritains avaient construites.
Oui, on est donc là à un moment où donc pour c'est divisé pour régner, hein, on prend des populations d'un endroit, on les amène dans un autre pays, ou on a pris une partie de la population pour l'amener ailleurs. Enfin, voilà. Et du coup, ça fait des mélanges culturels, etc., religieux. Mais on entend ici dans le livre des rois que ce sont quand même les sanctuaires préexistants qui étaient normalement dédiés à Dieu, qui deviennent les lieux de culte pour les déportés avec leur Dieu. Voilà. Alors, du coup, ici, c'est bien trop tôt dans l'histoire pour adresser ces reproches-là particuliers au peuple d'Israël. Du coup, la note les traducteurs de la traduction œcuménique biblique émettent l'hypothèse que cela pourrait viser des processions où l'on vénérait des images du trône divin, donc baldaquin et marchepied, ainsi qu'un emblème divin, l'étoile royale. Tout cela, pour Dieu, n'est qu'invention humaine, sans rapport avec la volonté de Dieu qui les rejette. Donc, Dieu est et méprise en réalité ici toutes les activités liées au culte. Et suite à tout cela, toutes ces exagérations, etc., toute cette fierté humaine mise dans les célébrations, eh bien, la sentence tombe, je vous déporterai au-delà de Damas. Voilà donc ce qui va attendre le peuple de Samarie et puis ultérieurement le royaume. Voilà, les deux royaumes vont subir la même chose. Et donc on peut légitimement écouter un psaume qui s'intitule « À Babylone, assis au bord du fleuve ». Et on pleure à ce moment-là quand on est déporté.
À Babylone, assis au bord du fleuve, quand chaque jour s'alourdissait l'épreuve, nous menions deuil en pensant à Sion, à sa splendeur, à sa désolation. Le sel des pleurs brûlait notre visage, nos luttes pendaient au sol du rivage.
Si j'oubliais le serment que j'ai fait,
avec le chapitre 6, le début du chapitre 6 du livre d'Amos, nous lisons les versets 1 à 7.
Malheureux ceux qui ont fondé leur tranquillité sur Sion et ceux qui ont mis leur sécurité dans la montagne de Samarie, eux, l'élite de la première des nations, vers qui vient la maison d'Israël. Passez par Calné, disent-ils, et regardez. De là, rendez-vous à Hamath, la grande, puis descendez à Gath des Philistins. Serait-elle plus prospère que ces royaumes-ci? Et leur territoire serait-il plus grand que votre territoire? En voulant repousser le jour du malheur, vous rapprochez le règne de la violence. Allongés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils se régalent de jeunes béliers et de veaux choisis dans les étables. Ils improvisent au son de la harpe, chantant comme David leur propre cadence, buvant du vin dans des coupes et se parfumant à l'huile des prémices. Mais ils ne ressentent aucun tourment pour la ruine de Joseph. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés en tête des déportés et fini la confrérie des avachis.
Ça, c'est extraordinaire aussi. J'avoue qu'un mot, c'est quand même assez terrible dans sa manière de dire les choses. Mais bon, et donc il vise ici les dirigeants hein, d'Israël, les élites du peuple. Ces gens qui sont pleins d'assurance et d'aveuglement, ils sont fiers de la prospérité des deux capitales d'Israël et de Juda. Ne sont-elles pas comparables aux plus grandes cités de la région? Et devant une telle prospérité, eh bien, ils se croient invulnérables. Mais leur aveuglement est immense. Et les trois villes, justement, qu'ils citaient en comparaison avec Jérusalem et Samarie, ces trois villes qui sont Calné, Hamath et Gath, eh bien, elles vont tomber aux mains des Assyriens. Donc, le point de comparaison, il vaut, mais pas dans le sens qu'ils auraient souhaité. Et Samarie aussi va tomber. On peut aller voir dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 10, les versets 9 et 10.
N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carchemish? N'en a-t-il pas été de Hamat comme d'Arpad? N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas? De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, où il n'y avait plus d'image qu'à Jérusalem et à Samarie.
Voilà, alors on voit que elles sont visées aussi, hein, ces villes. Et certains commentateurs voient le verset 2 comme un avertissement vers Samarie qui évoquerait les menaces qui placent sur des capitales voisines, donc plus puissantes pourtant que Samarie et Sion. Donc là, il va falloir se méfier. Et donc arrive ensuite, alors la description que je trouve moi extraordinaire, hein, très haute en couleur de ces élites, cette confrérie des avachis comme les nomme Amos, ceux-là même qui sont allongés et même vautrés hein, sur leur lit d'ivoire et qui se goinfrent, ça c'est moi qui rajoute. Et donc là on peut aller voir là aussi chez Ésaïe parce que finalement c'était l'autre royaume, mais on va voir que c'est pas mieux, au chapitre 5, les versets 11 et 12.
Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ne voient pas le travail de ses mains.
Même cause, même conséquence. Hein. Ils mangent, boivent, se parfument, chantent. Ils chantent comme David, donc le modèle des chants, mais selon leur propre cadence. Là encore, sans doute, les voilà qui pensent faire mieux que ce qui se faisait jusque-là. Et donc, ils font la fête, finalement, sans compter. Sans compter, mais surtout... Et c'est ce que disait aussi Ésaïe, sans se préoccuper du sort du peuple. de sa ruine. C'est quand même... Et oui, parce que, bon, à la limite, on peut imaginer que, bon, il ferait la fête, mais tout le monde serait bien, ce ne serait pas un problème. Mais on peut entendre, donc, ici, à la fois le constat de l'appauvrissement du peuple en raison... Donc, de la mainmise des richesses par les élites, donc la ruine du peuple, mais on peut aussi entendre l'annonce de la ruine à venir provoquée donc par la colère de Dieu, ruine qui les toucherait tout autant, hein, qui toucherait le peuple dans son entier. Et la sentence tombe, la déportation. Hein, ils quitteront ce pays dont ils étaient si fiers, à la tête toujours, mais à la tête des déportés. Finit donc cette confrérie des avachis, constate Amos avec une ironie mordante. Il a des formules quand même très, très percutantes, hein, notre prophète. Nous continuons toujours au chapitre 6 avec les versets 8 à 11.
Le Seigneur le jure par lui-même, oracle du Seigneur, le Dieu de l'univers. Moi qui abhorre l'orgueil de Jacob et qui déteste ses palais, je livrerai la ville tout entière. S'il arrivait que 10 hommes restent dans une même maison, ils mourraient. Le parent qui emportera les cadavres hors de la maison pour les brûler dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Il répondra, « C'est fini. » On dira, « Silence !» Plus personne pour invoquer le nom du Seigneur. Oui. Voici le Seigneur qui commande. Il frappe. La grande maison s'écroule. Même la petite se lézarde.
Voilà encore un oracle où Dieu manifeste sa colère. Il abhorre l'orgueil de Jacob. C'est vraiment à chaque fois la puissance des sentiments. Hein. Ce n'est pas juste je refuse ou quoi. C'est j'abhorre l'orgueil de Jacob. Et ce qui est très curieux, c'est que chez Amos, au chapitre 8, verset 7, on va le lire tout de suite là, Dieu se présente lui-même comme l'orgueil de Jacob. Donc on voit bien la question certainement. Si vous voulez bien nous lire au chapitre 8, donc ce verset 7.
Le Seigneur le jure par l'orgueil de Jacob. Jamais je n'oublierai aucune de leurs actions.
Voilà, donc c'est cet orgueil de Jacob, c'est lui-même. Et donc là, il aborde l'orgueil de Jacob. Donc on voit bien que c'est là où le bât blesse, puisque c'est en Dieu que doit se placer la fierté de son peuple. Donc Dieu qui devrait être la fierté de Jacob et non... En lui-même, ce peuple se croit devenu autosuffisant, il s'est détourné de Dieu. Et Amos annonce encore un cataclysme. Le verset 10 n'est pas clair et chaque traducteur y va de son interprétation, mais certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un tremblement de terre qui serait suivi d'une épidémie telle qu'elle nécessiterait d'incinérer les morts pour éviter la contagion. Et là, j'entendais par rapport aux inquiétudes qui sont liées toujours au tremblement de terre, comme celui qui vient de se produire en Turquie, ce risque systématique de la contagion derrière, quoi, immédiatement. Donc on voit que c'est quelque chose ce type de catastrophe enchaînée, ont dû se produire souvent dans ces régions sismiques et elles continuent à se produire et elles ont pu frapper l'imagination. Donc une telle annonce ne peut que faire frémir parce que ça représente quelque chose dont on connaît l'impact, quoi. Et c'est à tel point qu'il ne reste plus personne pour invoquer le nom du Seigneur. Silence. Point. Et s'écroulent les palais, les grandes maisons, là, les belles maisons que le Seigneur détestait tant. Et donc, on peut dire que les conséquences du comportement injuste des élites sont absolument terribles. L'image qui en est donnée ne peut que faire frémir. Dieu aura-t-il seulement pitié ? Hein, c'est vraiment, on entend certains psaumes hein, qui vont dans ce sens-là. Il y a un moment où l'accumulation des catastrophes incite à se tourner vers Dieu. Et nous continuons donc le chapitre 6. Nous allons lire les versets 12 à 14 pour finir ce chapitre et les oracles.
Est-ce que les chevaux galopent sur les rochers ? Il abourton avec des bœufs pour que vous fassiez tourner le droit en poison et le fruit de la justice en figue ? Ils se réjouissent pour lever le bar, pour rien, et disent « N'est-ce pas par notre force que nous avons fait, nous, la conquête de Karnaïm, les deux cornes ?» Me voici donc, je vais lever contre vous, maison d'Israël, oracle du Seigneur, le Dieu de l'univers, une nation, pour vous opprimer depuis l'Ebo Hamath jusqu'au torrent de la Araba.
Voilà, alors le verset 12 pourrait se lire ainsi, c'est toujours pareil, hein, les questions de traduction, et c'est assez joli et ça respecte le côté poétique finalement. Les chevaux galopent-ils sur les rochers ? Labourt-on la mer avec des bœufs ? C'est intéressant, hein, comme effectivement, on dit mais oui, non, on ne peut répondre finalement non, logiquement. Hein, mais ce sont deux formules poétiques qui introduisent ce qui suit. Le comportement des juges d'Israël est tel que la justice devient un instrument de mort au lieu d'être un instrument de liberté. Lodévar, c'est une ville de Transjordanie. On peut lire chez Josué, au chapitre 13, les versets 24 à 26.
Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Jaézer, toutes les villes de Galaad, la moitié du pays des enfants d'Ammon, jusqu'à Aroer vis-à-vis de Rabba, depuis Hesbon jusqu'à Ramat-Mitzpé et Bétomin, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière du Déir, et dans la vallée Beth-Aram. Beth-Aram.
Oui.
Beth-Nimra. Je crois que je m'arrête là.
Oui. Oui, oui. Alors, on a donc toute cette répartition, hein, des zones qui étaient évidemment très fertiles et qui donc étaient conquises, reconquises, etc. Et justement, cette ville donc de Lodévar avait été reconquise depuis peu. On peut aller voir ça dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 13, le verset 25.
Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, le fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit trois fois et recouvra les villes d'Israël.
Voilà, et donc ces villes donc, dont on avait eu la liste ont été donc, reprises. Ça ne va pas durer, hein, manifestement. Mais alors là encore, subtilité de la langue hébraïque, c'est aussi un jeu de mots qu'on pourrait traduire « ils se réjouissent sans raison, pour rien ». Hein, donc, on a les deux choses qui se superposent, comme toujours. Et puis, on a cette donc, autre ville de Karnaïm, aussi en Transjordanie, toujours cette même région. On peut aller voir ceci en Genèse, chapitre 14, verset 5.
Mais la 14e année, Kedor Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashkeroth-Karnaïm, les Uzim à Ham, les Zénin à Shavé-Kirjataïm.
Ouais, donc tout ça sont des lieux, des villes qui sont connues des Israélites parce que c'est dans leur histoire. Et puis des villes qui ont été donc l'objet de combats dans tous les sens et dans toute l'histoire. Mais c'est aussi, là encore, un jeu de mots qui est plus ou moins traduit, là, sur les cornes. Les cornes, donc, qui sont signes de puissance. Hein. Donc, on est là toujours dans l'ironie, hein, de la part d'Amos, qui, finalement, exprime qu'il n'y a pas de puissance qui tienne face à Dieu. Et, effectivement, Dieu lèvera une nation pour écraser Israël. Et de manière assez radicale, puisque c'est de l'Ebo Hamath jusqu'à Araba, ça désigne l'ensemble des territoires soumis par Israël à l'est du Jourdain. C'est la région que Jéroboam II pouvait se vanter d'avoir réoccupée, donc toujours hein, ces régions disputées. On peut aller voir ça dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 14, verset 25.
Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gad-Hépher.
Voilà, ce fameux Jonas hein, dont on a l'histoire. Et cette prophétie-là, ben, elle n'est pas dans le livre de Jonas, mais manifestement, elle a circulé à part du livre de Jonas. Enfin, en tout cas, donc, ces régions que Israël se vantait de posséder, eh bien, elles vont lui être prises. Et donc, l'avenir s'annonce tout à fait sombre pour Israël. Alors, on en a fini avec ce chapitre 6, là, pour le moment des oracles d'Amos. Nous aurons les visions la semaine prochaine, nous entamerons la question des visions. Donc, nous allons relire ce que nous avons travaillé aujourd'hui. Et puis, ensuite, nous écouterons un psaume, mais je l'annoncerai tout à l'heure. Donc, nous relisons depuis le chapitre 5, verset 21, jusqu'au chapitre 6, verset 14.
Je déteste vos fêtes. Je ne veux plus les voir, dit le Seigneur. Je ne peux plus sentir vos assemblées solennelles, ni les sacrifices complets que vous venez me présenter. Je n'éprouve aucun plaisir à vos offrandes de grains. Je ne regarde même pas les veaux gras que vous m'offrez en sacrifice de paix. Éloignez de moi le vacarme de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le son de vos harpes. Que le droit jaillisse comme une source, que la justice coule comme un torrent intarissable. Pendant les 40 ans que vous avez passé au désert, m'avez-vous présenté des sacrifices et des offrandes, gens d'Israël? Vous avez porté les symboles de votre dieu roi Sikout et de votre dieu étoile Kioum, ces objets que vous vous êtes fabriqués. C'est pourquoi je vous exilerai bien au-delà de Damas, déclare le Seigneur, son nom est Dieu de l'univers. Hélas pour vous qui vous croyez en sécurité à Sion, et pour vous qui habitez sans souci sur la colline de Samarie, vous êtes, paraît-il, l'élite du premier des peuples, et dire que les Israélites se tournent vers des gens comme vous. Rendez-vous plutôt à Calné pour voir ce qui s'est passé. Ensuite, allez de là jusqu'à Hamath, la grande ville. Puis descendez à Gath, chez les Philistins. Vous le constaterez, vous ne valez pas mieux que ces royaumes-là, même si leur territoire est plus petit que le vôtre. Vous cherchez à reculer le jour du malheur. En réalité, vous rapprochez le règne de la violence. Vous êtes allongés sur des lits décorés d'ivoire, vautrés sur vos divans pour déguster de l'agneau et manger du veau gras. Vous chantez à tue-tête au son de la harpe. Pour imiter David, vous créez de nouveaux instruments de musique. Vous buvez le vin dans de larges coupes et vous vous parfumez aux huiles les plus fines. Mais vous ne vous affligez pas du désastre qui menace les tribus de Joseph. C'est pourquoi j'annonce maintenant que vous serez au premier rang de ceux que l'on exilera. Fini la fête pour les feignants. Le Seigneur, le Dieu de l'univers, a fait le serment que voici. Aussi vrai que je suis le Seigneur Dieu, dis-je, l'orgueil du royaume d'Israël me répugne profondément. Je déteste ces belles maisons. Je livrerai à ses ennemis tout ce qu'il y a dans Samarie. S'il reste 10 hommes dans une famille, ils mourront. Alors un proche parent des morts emportera les cadavres hors de la maison pour les brûler. S'il se trouve un survivant dans la dernière pièce de la maison, ce proche parent lui demandera « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?»« Non, personne », répondra l'autre, qui ajoutera « Silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom du Seigneur. » Prenez garde en effet, le Seigneur n'a qu'un ordre à donner. La grande maison tombe en ruine et la petite maison se fissure. Est-ce que les chevaux courent sur les rochers? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs? Pourquoi donc avez-vous changé le droit en poison et une conduite juste en quelque chose d'amer ? Vous fêtez votre victoire de l'eau d'abord la dérisoire. Vous dites « Nous sommes assez forts pour avoir repris Karnaïm, la double corne. » Mais moi, dit le Seigneur, le Dieu de l'univers, je dresserai contre vous, royaume d'Israël, un pays qui vous fera sentir son pouvoir depuis Lebo Hamat, au nord, jusqu'au torrent de la Araba, au sud.
Voilà, ben l'heure est grave. Alors, on peut peut-être écouter un psaume, le psaume 10, qui rend compte de la détresse d'Israël devant les difficultés. Et donc, ce psaume 10 qui dit « Pourquoi, Seigneur, te cacher ?»
Eh bien voilà, chers amis auditeurs et auditrices, cette émission s'achève. Je vous remercie d'avoir suivi avec nous et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine car nous allons nous retrouver dès la semaine prochaine pour la suite évidemment du livre, de la lecture et du commentaire du prophète Amos par notre pasteur Marie-Odile Wilson. Et sur ce, je fais un petit coucou à Nicole qui est à la technique. Et puis, écoutez, Marie-Odile, voilà, nous nous retrouverons rapidement.
Oui, 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 sans faute, pour poursuivre cette étude qui nous renvoie quand même à des choses tellement, tellement actuelles. Voilà, eh bien, la parole de Dieu est une parole vivante et il nous faut la recevoir comme telle, et même et surtout peut-être quand elle nous secoue, comme ici, assez fort, malgré tout.